Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, à partir du verset 7. On va lire un court verset. Avec l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 7, l'apôtre Paul dit ceci: « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Je répète, « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. » Le titre de mon message, je l'ai intitulé ainsi: « Quand la communion fraternelle devient une priorité ». Et je voudrais vous partager ce matin ce sujet de la communion fraternelle, parce que déjà, premièrement, il me tient à cœur, mais c'est aussi un sujet spirituel, biblique. Et à un tel point, c'est que ce verset est une bombe, parce que l'apôtre Paul soulève un point essentiel. Il dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis ». C'est-à-dire qu'il met en parallèle la communion fraternelle à l'égard de mon frère et ma sœur, je dirais au même niveau que la communion fraternelle que j'ai avec le Seigneur, ou en tout cas ce que le Seigneur a eu avec nous. Et nous avons besoin de vivre, d'expérimenter, de rentrer dans ce processus, dans ce programme que le Seigneur a donné à son Église, la communion fraternelle. Un jour, j'ai eu l'occasion de le faire dans une des églises où j'étais pasteur, il y a 7-8 ans de ça. Et je me rappelle, au fond de l'église, il y avait un frère qui était là. Et je me rappelle un ancien, j'ai posé la question, j'ai dit, mais comment il s'appelle ce frère là-bas? Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où il vient, ce qu'il fait. Et je crois qu'il doit être plongeur dans un restaurant. Il m'a donné quelques détails très brefs. Et alors, je suis allé le voir à la fin du culte. Et je lui ai posé la question. Il dit, mais vous êtes là depuis combien de temps? Il me dit, depuis 6 ans. Vous voyez, dans une église, une centaine de membres. Voilà, je me suis aperçu que les frères et sœurs ne se connaissaient pas. Et ça a été l'occasion vraiment de partager la communion fraternelle et puis d'avoir tout un sujet à ce niveau. Le grec du mot communion désigne, d'une manière générale, des choses communes à plusieurs personnes. Et nous avons tous ensemble des choses communes. Déjà, rien que dans un texte, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16, il est dit, vous le connaissez parce qu'on le fait tous les dimanches, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? C'est-à-dire que nous avons tous quelque chose de commun. La communion au sang de Christ et la communion au corps de Christ. La communion avec Christ ensemble parce qu'il nous a invités à sa table. Or, s'il nous a invités à sa table à communier, à avoir cette communion fraternelle, à plus forte raison, nous avons et nous devons avoir le devoir d'avoir cette même communion avec mon frère et ma sœur. Parce que ce que le Seigneur a fait pour nous et ce que nous faisons pour lui, nous devons le faire pour les autres. Et la communion fraternelle passe par là, parce que sans unité, il n'y a pas de communion fraternelle. Et sans communion fraternelle, il n'y a pas d'église. Qu'est-ce qui est le cœur de l'Église? C'est la communion fraternelle. Et on va le voir un petit peu plus loin, ce que ça apporte et quels sont les impacts dans une Église, mais aussi les impacts dans notre vie chrétienne, dans notre cœur personnellement. Et vous allez voir que ça va nous éviter tant de divisions, tant de conflits. C'est pour cela qu'il est dit « Accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. » Très fort ça. Jésus a été le modèle dans la communion fraternelle. Il a été un exemple dans la communion fraternelle. Il nous demande d'en faire autant les uns pour les autres. Et d'avoir vraiment ce cœur de père, ce cœur de frère, ce cœur de mère, les uns pour les autres. Alors nous avons tous besoin de la communion fraternelle, de la recevoir, ça c'est un fait, mais aussi de la donner. Et je disais tout à l'heure à un frère à la sortie, me dit, j'ai vraiment compris ce message et nous avons besoin de le recevoir. J'ai dit, mais oui, mais c'est vrai, mais on a aussi besoin de donner, parce qu'en donnant, on va recevoir. Des fois, on attend des autres quelque chose que peut-être le Seigneur te demande de faire toi d'abord. Et ça, c'est important. C'est un échange réciproque. N'attendez pas un sourire, donnez-le. En quelques secondes, on peut capter quelqu'un, on peut encourager quelqu'un. Juste quelques secondes, un sourire, et on touche une personne. N'attendez pas une poignée de main, tendez-la. Ça dure 2-3 secondes, mais quelque part, au travers de ce contact, il va y avoir quelque chose peut-être de puissant qui va se passer. Qui sait que ce frère, cette sœur ne passe pas un moment difficile où elle ne peut pas donner, mais toi, tu vas transmettre. Sans qu'on sache réellement la portée de cette main. Mais c'est peut-être une main de salut, une main de réconfort, une main de restauration. Une main qui va peut-être avoir des conséquences incroyables dans la vie de cette personne. Alors, n'attendez pas une conversation, déclenchez-la. Allez voir cette sœur, allez voir ce frère. Alors, depuis combien de temps vous êtes au milieu de nous? Et ça permet un échange, ça permet vraiment quelque chose de fort, d'incroyable qui va se construire entre vous et elle. Un jour, alors que j'étais en visite dans une église, le pasteur me demande de venir avec lui à l'hôpital pour aller voir une sœur, alors je l'accompagne et en arrivant dans la chambre, cette sœur était blessée. Et elle disait, vous imaginez frère, ça fait 15 jours que je suis ici, personne n'est venu me voir, à part vous, à part vos coups de fil, personne n'est venu me saluer, me donner un petit coucou, prier avec moi. Et cette sœur partageait ça dans son cœur, puis il y avait comme une blessure, il y avait comme quelque chose qui était là, puis au bout de 10 minutes, le pasteur a ouvert sa bouche et a dit, « Sœur, combien de fois vous êtes allé voir un tel alors qu'il était à l'hôpital? Combien de fois vous êtes allé voir notre sœur un tel alors qu'elle était en convalescence? Combien de fois vous êtes allé... » Et cette sœur, alors qu'il était en train d'énumérer toutes ces personnes dans l'église qui étaient dans le problème, cette sœur commençait à pleurer. Et le pasteur de lui dire, vous voyez, tout simplement, c'est que quand on ne donne pas, on ne peut pas recevoir. Et je crois que la communion fraternelle passe par là, frères et sœurs. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut aller voir ce frère, cette sœur, même si elle ne vient pas nous voir, vous comprenez bien. Mais elle ne le comprenait pas, ça, parce qu'elle ne comprenait pas tout simplement pourquoi on ne venait pas, mais parce que tout simplement, elle n'avait jamais donné. Alors, elle ne marquait pas le cœur des gens. Elle ne marquait pas, elle n'interpellait pas les personnes qui étaient autour d'elle, parce que tout simplement, elle-même, elle s'effaçait, je dirais, de ce programme. La Bible nous dit même, et il faut aller même bien plus loin, elle dit, « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » 1 Corinthiens chapitre 16, verset 20. Et Pierre va même plus loin dans cette réflexion, puisqu'il dit « Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. » C'est-à-dire que ça va bien plus loin. Avoir de l'affection, c'est avec les tripes qu'on va saluer quelqu'un. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, attention, pas de communion, pas de communion cordiale, mais une communion fraternelle. Parce qu'on est cordial dans ce monde, mais nous, frères et sœurs, on est fraternels. Et c'est là toute la portée, parce que notre œuvre, elle est spirituelle. L'engagement est spirituel, parce qu'au milieu de la communion fraternelle, il y a Christ. Il y a l'amour de Christ, il y a la présence de Christ, il y a le témoignage de Christ. Et raison pour laquelle un sourire a une portée incroyable, une main tendue a une portée incroyable. Et pour pouvoir peut-être, je dirais, avoir un contact avec quelqu'un, c'est à une portée céleste, spirituelle. C'est comme ça que les gens viennent pour la première fois dans un lieu et se sentent bien, se sentent accueillis. Ils sentent une atmosphère spirituelle, c'est léger, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de chape, parce que c'est la communion fraternelle qui permet cela. La communion fraternelle dégage cette opposition, je dirais ouvre un ciel et permet un bien-être dans notre vie et dans notre cœur. Dans l'une des chansons de Gilbert Bécaud, qui était un chanteur de ce monde, qui est décédé en 2001, il a chanté ce chant, cette chanson qu'il a intitulée « L'indifférence ». Alors, je ne vais pas lire toutes les paroles, parce qu'elles sont toutes autant poignantes les unes que les autres, mais j'ai retiré juste quelques pensées. Il dit ceci dans son chant, « Ce qui détruit le monde, c'est l'indifférence. L'indifférence, elle te tue à petits coups. L'indifférence, tu es l'agneau, elle est le loup. L'indifférence, je voudrais l'avoir crucifiée. L'indifférence. » Et là, vous voyez, au travers de ce texte, nous trouvons des pensées bibliques. Il nous est parlé de cette indifférence qui est le loup. Et lui, dans son chant, il dit, « Mais cette indifférence, je veux l'avoir crucifiée. » Et moi, ça me parle parce que j'ai été finalement crucifié avec Christ. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je n'ai plus cette indifférence dans mon cœur. Parce que Jésus est venu ouvrir un boulevard, le boulevard de la communion fraternelle. Nous avons crucifié tout ce qui était de la chair, c'est-à-dire cette indifférence qui en fait partie. Et aujourd'hui, ben, finalement, j'ai qu'une seule chose à donner. C'est la communion fraternelle, parce que j'ai rien d'autre. Et lui criait haut et fort à qui voulait l'entendre, qui voulait crucifier l'indifférence. Ben, nous, on l'a déjà fait. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous pouvons apporter à des frères, à des sœurs, à des amis qui sont au milieu de nous. L'accueil est réservé à tout le monde. Pas seulement aux membres de l'Église, n'oublions pas les sympathisants. Les sympathisants ont besoin d'énormément d'attention jusqu'à ce qu'ils arrivent à se sentir bien. Sympathisants, c'est toutes ces personnes qui ne sont pas encore engagées dans l'Église locale. Sont pas encore investis dans l'église locale. Ils viennent depuis quelque temps et puis ils sentent l'atmosphère de l'église et puis après, à un moment donné, ils veulent passer le cap en disant « Voilà, je veux devenir membre de cette église et je veux participer à ce travail, à cette vision de l'église. » Mais ces gens-là, ce sont encore des sympathisants qui ont besoin de se sentir à l'aise. Et c'est nous, par nos gestes, par notre attitude, on va les mettre à l'aise au milieu de nous. Puis les visiteurs. Les visiteurs auront besoin d'être rassurés. Ils arrivent dans un lieu inconnu, la plupart du temps ils sont seuls, ils viennent pour la première fois. Ils sont là, sur une terre sans repère. Je dirais, ils auront besoin vraiment d'être entourés, d'être bordés, d'être vraiment, je dirais, rassurés. Alors, il y a les gestes qui parlent. L'accueil non-verbal représente environ 75% de la communion. Et ça, ce sont les gestes qui parlent, c'est-à-dire un sourire. Je le disais tout à l'heure, en quelques secondes, on peut toucher quelqu'un. Juste un sourire. Un geste, un signe. Salut. Et ça dure une fraction de seconde, mais on a pris un contact avec cette personne. On lui a dit qu'on pense à elle. Même de loin, si on n'arrive pas à lui dire bonjour, mais on sait que voilà, il y a une relation qui s'est faite. Il y a un regard. Et ça, ce sont des gestes de bénédiction. Et puis, en plus de cela, il y a les mots pour le dire. Alors, les mots... Je vais laisser la Bible nous en parler, c'est dans Colossiens chapitre 4, verset 6, où il est dit ceci, l'apôtre Paul dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Vous voyez ? Et plus que cela, c'est un vrai repas assaisonné de sel. Il faut qu'il y ait du goût dans ce qu'on va dire. Pour ne pas blesser, pour ne pas casser, pour ne pas être gauche, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il faut que nous ayons des paroles de bénédiction. Est-ce qu'en parlant avec les autres, les gens se font du bien ? Est-ce que la personne avec qui tu vas parler se fait du bien avec toi ? Moi, il m'est arrivé, malheureusement, d'entendre des gens, et je me rappelle déjà, je dirais, quand j'étais tout jeune dans la foi, que j'ai débuté dans ma vie spirituelle, j'ai eu 2-3 personnes qui, à chaque fois qu'elles me parlaient, me faisaient du mal. Pas qu'elles étaient grossières, mais... Leur attitude, leur comportement, ce n'était pas assaisonné de sel. Ça faisait mal. Ça cassait. Alors, au lieu de me froisser avec elles, je préférais prendre de la distance et me retrouver avec des gens qui sachaient me bénir, qui sachaient vraiment me remplir, me faire du bien. Et nous avons besoin de ressentir cela, accompagné de grâce, assaisonné de sel. Il faut savoir que l'accueil est l'affaire de tous. Comme nous sommes aux premières loges, c'est l'affaire de tous. Je donnais cet exemple du service d'accueil dans l'église et je bénis Dieu pour le service d'accueil que nous avons. Vous imaginez le travail qu'ils font, un travail remarquable, premier contact, il est important et ils l'ont ce premier contact. Vous savez que quand vous êtes au service d'accueil, vous ne pouvez pas assister au culte correctement. Vous n'êtes pas dans le culte, ce n'est pas possible, c'est pour ça qu'il y a un roulement, il y a toute une équipe. Mais à chaque fois, ils sont les premiers à accueillir ces personnes, à leur donner le sourire, à les accompagner au devant pour les placer, qu'ils se sentent à l'aise. Mais après, une fois qu'ils ont pris le relais, qu'ils ont pris plutôt le contact, nous avons besoin, et c'est l'obligation de l'Église, de prendre le relais. Mais rien ne remplacera l'accueil que tu dois partager à ton prochain parce que tu es aux premières loges, mon frère, ma sœur. Et combien d'entre nous avons des voisins peut-être juste à côté, des amis qu'on ne connaît même pas. Peut-être que juste à côté de toi, tu as quelqu'un que tu n'as jamais vu, jamais entendu, tu n'as jamais eu l'occasion de parler avec. Mais t'es arrivé des fois de pouvoir rencontrer des personnes, s'asseoir à côté, mais pas un bonjour, pas un salut, pas un contact fraternel, rien du tout. L'impression qu'on est dans un RER, vous voyez ? Pire, un métro, tout le monde debout et personne ne parle. Mais on est sorti de ces clichés. Nous sommes certes à Paris, mais nous sommes dans une église chrétienne. Nous sommes dans une communion fraternelle et non pas cordiale. Et c'est pour ça que nous avons besoin de briser cela de grâce dimanche prochain. Si à côté de toi, tu as quelqu'un qui vient s'asseoir, que tu ne le connais pas, aborde-le. Rentre en contact avec lui. Partage avec lui. Pose-lui quelques questions. Ah, vous êtes là depuis combien de temps? Et, ah, vous êtes chrétien, vous venez d'où? Et on peut rentrer dans un dialogue. Parce qu'après, c'est comme ça qu'on va connaître la personne, on va échanger avec cette personne. La communion fraternelle est une puissance. Vous le saviez, ça? Savez-vous que la rencontre avec d'autres croyants, le partage en groupe, renforce notre vie spirituelle. Je dirais que nous cimentons l'œuvre de Dieu entre nous avec la communion fraternelle. Vous ne pouvez pas savoir la puissance qu'il y a dans la communion fraternelle, car elle nous préserve de la division, elle renforce l'unité dans l'Église. Elle nous évite que l'adversaire rentre, je dirais, dans les fissures et essaie de déstabiliser. Parce que la communion fraternelle va nous unir, va nous sceller les uns les autres. Je vais vous donner un exemple. Les flocons de neige, vous savez comment c'est tellement fragile. Il suffit de tendre la main, vous voyez un flocon descendre sur votre paume de main, et puis de suite, instantanément, pouf, il devient de l'eau. C'est fragile, un flocon. Écoutez-moi bien. Mais lorsque les milliers d'entre eux se collent les uns aux autres, ils peuvent bloquer la circulation. Regardez l'année dernière, à Paris. C'était presque le plan hors sec. Même les Québécois rigolaient des Français, parce qu'avec quelques centimètres de neige, c'était panique à bord. Mais ni vous ni moi ne pouvons accomplir tout cela, tout seul. On a besoin d'être comme ces flocons. Mais lorsque nous saisissons la communion fraternelle, alors ensemble, nous devenons une puissance incroyable. Parce que les uns les autres, on va bloquer les œuvres de l'adversaire. On va bloquer la circulation du diable. On va empêcher l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'adversaire de circuler. On va tétaniser, on va encercler, je dirais, les œuvres du malin à cause, ou plutôt grâce à la communion fraternelle. C'est pour ça que je vous ai dit que sans la communion fraternelle, il n'y a pas d'église. Il ne peut pas y avoir d'église, mais quand la communion fraternelle est là, rien ne peut nous nuire. Oh, on aura de la turbulence, c'est vrai. On aura des coups bas, c'est vrai. Où l'adversaire essaiera de nous intimider, c'est vrai. Il voudra essayer de nous troubler, c'est vrai. Mais la communion fraternelle sera toujours plus forte. Fera toujours la différence. Parce que c'est le contraire, la communion fraternelle est le contraire des puissances démoniaques qui sont là pour égorger, pour détruire, pour briser. La communion fraternelle, c'est directement céleste, ça vient du ciel. Pour ça que Rick Warren a pu dire ceci: l'unité est le cœur de la communion fraternelle, détruisez-la et vous arrachez le cœur du corps de Christ. Détruisez-la, vous arrachez le cœur du corps. Et sans cœur, une église se meurt. Elle ne vit pas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une grande responsabilité dans l'église de Christ. Et moi, je ne veux pas permettre à l'adversaire de rigoler. Je ne veux pas laisser l'avantage au diable. Et je ferai tout au travers de la communion fraternelle à sceller, je dirais, ma vie spirituelle à celle des autres au sein de l'église locale. Et si chacun d'entre nous faisant comme cela, ça va être une vraie bombe au milieu de nous. Parce que rien n'a plus de valeur pour Dieu que son Église, unie dans la communion fraternelle, tout simplement parce qu'il a payé le prix. Il a payé le prix, il est mort à la croix pour ça. Et il est mort à la croix pour nous unir, pour nous rassembler, et pour nous permettre d'avoir une relation fraternelle les uns avec les autres, non pas venir dans un lieu et être étranger de tout le monde et ressortir comme on est rentré, c'est pas possible, c'est même impensable, c'est pas possible. Je ne peux pas concevoir que dans une église, on puisse rentrer et ressortir comme on est rentré. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans les plans divins, dans les plans de Dieu. Le Seigneur a autre chose pour nous. Et il n'y a rien de plus fort, de plus percutant qu'une personne qui rentre dans ce lieu et qu'elle se sent de suite aimée par les uns les autres. qu'elle se sente de suite aimée par les frères et sœurs, qu'elle se sente de suite, je dirais, appréciée, accueillie, je dirais, par son peuple. Et ça, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, vous connaissez tout ce chapitre, on nous a parlé de la Pentecôte, c'est fort, c'est puissant, et ça nous concerne, nous qui sommes de la Pentecôte. Et il y a une progression incroyable dans ce passage. Déjà, du verset 1 à 21, nous a parlé de l'effusion du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis, baptisés du Saint-Esprit, ils parlèrent tous en langue. Ils étaient dans cette chambre haute, et ils étaient là, ils attendaient la puissance de Dieu, les seigneurs les a touchés, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et puis, si vous allez un petit peu plus loin dans cette démarche, à partir du verset 22 à 41, alors il y a eu une prédication, la prédication de l'apôtre Pierre, ça a été une prédication incroyable, ça a été une bombe. Puisqu'il nous a dit, dans ce passage, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et se dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ?» Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » C'est-à-dire qu'au verset 22 à 41, il y a eu l'évangélisation de plus de 3000 âmes sauvées. Effusion du Saint-Esprit, évangélisation, 3000 âmes sauvées, puis après, qu'est-ce qui se passe quand ces 3000 âmes sont sauvées? Ben, faut faire une église. De suite, à côté, constituer vite une église, comme ici aujourd'hui, parce qu'il y a eu de l'évangélisation pendant des années, parce que nous avons rendu témoignage de Dieu, parce qu'on fait des campagnes d'évangélisation avec Franck Alexandre et tant d'autres pasteurs de passage. Ça a été un mouvement d'évangélisation formidable. La preuve, c'est qu'on va avoir bientôt un service de baptême. Tout cela parce qu'on va en avant. Il y a de l'action, baptême du Saint-Esprit, évangélisation. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, après, tout simplement, il faut qu'il y ait un bon fonctionnement de l'Église. Alors, en troisième partie, au verset 42 à 47, toujours dans ce chapitre 2 des Actes, il dit « Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Dans ce passage, il nous est parlé que si on veut avoir un bon fonctionnement dans l'Église, il faut l'enseignement, et ça, l'enseignement, on l'a. Il n'y a pas de souci. On a des pasteurs ici qui sont des enseignants et on se fait vraiment du bien au travers de leur ministère. Mais après, la parole de Dieu nous montre qu'il faut aussi la fraction du pain. On l'a tous les dimanches. Et puis, on a les prières. Les mardis soirs, on a des temps de prière. Les vendredis, quand il y a les jeûnes et prières. On est en action pour cela. Mais il parle aussi, pour un réveil, pour une progression de l'Église, il parle aussi de la communion fraternelle. Et c'est pour cela qu'au verset 47, il est dit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés et toute sa grâce aussi et en partie à la communion fraternelle. » Et si nous voulons voir des âmes venir à l'Église, à Christ, ça sera certes au travers de l'enseignement, c'est vrai, certes au travers, je dirais, de la fraction du pain et des prières, mais aussi au travers de la communion fraternelle. On est dans un monde d'indifférence. Et il faut que les gens trouvent la différence en venant dans une église. Il faut qu'ils sentent que ce n'est pas la même chose que dehors. Et c'est nous qui avons la responsabilité de pouvoir donner cette différence.